ma foi, j'y crois. Ma foi, j'y crois.
Ma foi, j'y crois.
Une émission de Benoît Petit.
Aujourd'hui, avec Anne-Laure Collin. Bonsoir, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en deuxième année d'études à l'IRCOM à Angers, mais vous venez en fait de Limoges. Depuis un mois, vous êtes à Toulouse, dans la Ville Rose, et parce que vous êtes stagiaire à Radio Présence. Et je cherche surtout des voix féminines pour avoir la parité dans cette émission, ma foi j'y crois, et que vous êtes disponible, je vous remercie beaucoup d'accepter de venir parler de votre famille, de votre parcours jusqu'à l'école supérieure et surtout de vos rêves, de vos projets. De votre amour du sport, des chevaux. C'est un beau programme. Alors, si on commence par le début, je crois que c'est intéressant de dire que, en fait, vous étiez orpheline au Vietnam et vos parents sont venus vous chercher il y a donc 18 ans, à peu près.
Et... Oui, alors, moi, je viens du Vietnam et mes parents m'ont adoptée, donc environ entre 7 et 8 mois, je crois. Pour après revenir vivre en France, donc j'ai en fait beaucoup plus vécu en France qu'au Vietnam. Et puis j'ai grandi effectivement à Limoges, dans le Limousin.
Avec deux grands frères et une grande sœur qui vous ont précédé dans la famille et avec qui vous avez des relations extrêmement fortes.
Et un petit frère aussi.
Le petit frère, on en parlera tout à l'heure, parce qu'il a cette particularité d'être trisomique et vous avez des rapports très forts, très, très, très intimes avec lui, qui sont particuliers.
Exactement. Du coup, pour en revenir, oui, j'ai deux frères aînés, qui sont eux, donc, du coup, biologiques. Eux, ils sont beaucoup plus grands que moi, ils sont déjà mariés.
J'ai 5 neveux et nièces, vous
Exactement,
m'avez dit.
J'en ai 5. Et puis, j'ai une sœur aussi. Et oui, nos liens sont toujours ont toujours été forts. Bon, il y a eu des épreuves, hein, mais ça, comme dans toute famille. Mais aujourd'hui, oui, on a la chance d'être dans un endroit qui est aimant, qui est à l'écoute, qui essaye de comprendre. Et voilà. Alors, il y a forcément des difficultés, mais quand on sait qu'on peut compter sur les autres, ça paraît déjà un petit peu plus facile.
Et vous dites que c'est là que se manifeste cette sensation de l'amour de Dieu, parce que vous dites, oh ben la foi, c'est, par exemple pour le catéchisme, je ne rentre pas trop dans ce côté, dire scolaire.
En fait, moi ce que j'apprécie c'est de discuter, c'est pas d'écouter, enfin, c'est-à-dire que quand j'étais au catéchisme, c'est, quand on est petit, j'avais déjà ça, c'est-à-dire que moi j'ai besoin de comprendre. Donc c'est-à-dire que quand on me parle de quelque chose et que, bah, comme dans une classe, on n'est pas autorisé à parler comme on souhaite parce qu'il y a du monde autour, parce qu'on est plusieurs enfants et que c'est sans doute normal, bah, c'était pas ma façon de voir les choses. Et oui, dans la famille, c'est là où on se rend compte que Dieu est présent. C'est parfois compliqué de le voir, mais déjà nous, que ce soit avec ma sœur, mon petit frère, moins parce que voilà, il est handicapé, mais nous... On sait que c'est aussi une certaine grâce d'être aujourd'hui ici, parce que ça aurait pu être n'importe qui d'autre qui soit adopté, parce que la vie aurait peut-être pas fait que j'aurais rencontré ces personnes-là à ce moment-là. Donc forcément, oui, on voit une certaine forme de grâce dès le commencement, en fait.
C'est pas seulement un confort, c'est surtout ces relations et ce dialogue dans la famille, hein, qui vous impressionne, qui vous marque et dont vous êtes reconnaissante. Et alors, pour en revenir au catéchisme, c'est que vous étiez surtout en fait intéressé par le sport, hein, que ce soit le bateau de tout type et puis d'autres formes de gymnastique. Donc ça, c'était là où vous vous réalisiez.
Ouais, je me suis, j'avais pas mal d'énergie petite, j'en ai toujours, mais petite, j'avais beaucoup besoin de faire quelque chose, enfin même de mon corps, c'était mon corps, j'aimais beaucoup utiliser mon corps, la gymnastique c'est l'outil principal de la gymnastique quand même, parce qu'on fait tout avec, donc j'ai commencé très très tôt, et pas...
Même de la compétition de ces hauts niveaux.
Oui, j'ai fait du plutôt bon niveau en gymnastique, d'aller jusqu'en plusieurs fois en championnat de France, plutôt bien classé, d'avoir fait oui j'avais
tennis équitation.
Ouais, tennis équitation. Tennis, c'est arrivé un peu plus tard parce que en fait la gymnastique était très compliquée parce que tous les week-ends j'avais plus de 15 heures de gym par semaine.
Oui.
Donc j'ai trouvé un autre sport où là j'ai pu me défouler mais complètement dans une balle. Ça c'était extraordinaire. Et l'équitation, c'est arrivé encore un petit peu plus tard, c'est arrivé en cinquième. Et là, ça a été une autre forme de sport qui arrivait. C'était tendre en fait. C'était un truc où j'avais un animal avec moi, comme j'aimais beaucoup les animaux. Ça a été aussi une autre révélation ça. Et le bateau. Bateau, c'est dans mon ADN, ça a toujours été petite. La mer, je connais la mer depuis mes 8 mois. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours un endroit qui me passionne.
C'est pour ça que vous avez choisi comme image, pour faciliter la replay sur le site, une photo que vous avez prise vous-même de la mer.
Exactement, oui. Elle était bleue ce jour-là, translucide. Et c'est rare. Et donc, c'est un lieu qui m'inspire beaucoup, qui me fait du bien, je dirais même.
Jusqu'à la prière, à certains moments
Alors, non. Non. Quand je suis à la mer, je ne pense pas à la mer. Mais il y a une certaine vérité, c'est que la mer, quand on va en Bretagne, dans l'endroit où je suis, forcément, les gens qui restent à l'année, ceux qui vivent en fait depuis des années là, ils vouent un certain, on ne va pas dire un culte, mais une admiration pour cette mer-là, parce que il y a eu beaucoup de miracles dessus, parce que forcément, Jésus a quand même marché sur l'eau. Donc il y a une relation avec la mer. Et forcément, il y a parfois des cérémonies pour bénir la mer. Et ça, oui, forcément, là, la mer est en lien.
Une ouverture vers un ailleurs, vers un mystère, j'allais dire une transcendance, mais bon, je suis sociologue, j'ai du mal à utiliser des mots comme la sainteté ou des termes qui sont parfois peut-être galvaudés. Alors, vous me disiez que vous aviez aussi des images de personnes qui vous inspirent, comme Don Bosco. Et ça, c'est plutôt le fait de l'éducation.
Ah non, Don Bosco, c'est celui qui est arrivé, du coup, je l'ai découvert par une BD il y a quelques années de ça. Et en fait, moi, je suis les enfants, c'est quelque chose que j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour un enfant. Et puis parce que j'ai des neveux et nièces qui sont d'âge très différent. Et c'est des personnes qui me portent beaucoup. Et donc, en fait, la vision qu'a Don Bosco des enfants, de la façon dont il les a aidés, de les aimer, de les faire grandir. C'est plutôt sur cette vision-là qui est... C'était pas l'éducation, parce que finalement, en fait, l'amour passe avant l'éducation, surtout. Quand on un enfant naît, c'est la vague d'amour qui passe avant de dire « je vais l'éduquer ». C'est une vague
d'amour.
Mais
lui, il voulait sortir des jeunes qui étaient désœuvrés et qui étaient délinquants
en
leur faisant jouer du sport et qu'ils soient ensemble.
Ah oui, mais exactement. Parce qu'ils se portent entre eux-mêmes, mais c'est vrai que s'il le fait, ça part aussi d'une vague d'amour, d'une vague d'aider, d'une vague quelque chose en fait qui est de l'ordre du cœur quoi. Et c'est ça que j'ai trouvé ça formidable parce que il a fait du bien à des enfants tout en faisant énormément confiance à Dieu. Et
c'est une forme de famille d'adoption.
C'est à peu près ça, mais c'est un personnage qui est pour moi qui est admirable sur beaucoup de choses. Il a quand même, c'est pas tous les jours que un saint fait un autre saint, parce qu'il a quand même fait Dominique Savio, qui est aujourd'hui saint. Alors il y a d'autres exemples, que ce soit Thérèse et toute sa famille qui sont saints, mais ou Saint Benoît et Saint Scolastique, mais c'est pas tout le monde qui possède.
Vous pouvez préciser la relation entre Don Bosco et Dominique Savio, parce que je pense qu'il y a peu d'auditeurs qui sont au courant de cette transmission de la foi par une intimité entre deux hommes, ou ça peut être aussi entre un homme et une femme. C'est comme ça, sans doute, que Jésus recrutait ses disciples.
Oui, sans doute. Je ne saurais pas le dire, mais c'est vrai que Don Bosco a recueilli beaucoup d'enfants. Il y en a un qui est arrivé un jour, Dominique. Et Dominique a toujours été très très touché par la foi. Il avait lui une sorte de un cœur en fait qui était fait pour Dieu sans doute, parce qu'il est quand même resté des nuits à veiller à côté de l'autel, devant le Saint-Sacrement, jusqu'à être en retard en cours parce qu'il avait juste oublié l'heure, quoi, et que Don Bosco devait aller le chercher. Donc je ne sais pas si c'est Don Bosco dont lui l'admirait, ou si c'est la façon dont Don Bosco lui a transmis la foi, et à partir de là, ça a créé un lien qui était puissant, mais qui s'est vite arrêté parce que Dominique est mort très jeune. Mais suffisamment pour qu'il soit connu, parce que
aussi il jeune, a fait des merveilles, comme on peut dire.
Exactement, d'être mort c'est... aussi jeune et d'avoir une foi aussi puissante, ça lui a permis, si je puis dire, de se démarquer, même si c'est un terme un peu...
Si, se démarquer. Et justement, vous nous avez apporté un morceau de musique, c'est du rap, n'est-ce pas? Et c'est justement comment cette question de l'adoption de la France, alors à la fois la citoyenneté et puis un désir de justice. On va l'écouter. Merci Christophe.
Pourquoi je suis mal à l'aise devant mon propre drapeau? Pourquoi je le vois brandi uniquement à l'étranger ou chez les fachos? Longtemps qu'il a pris la poussière, le mien ne m'a pas trop servi. Pourquoi ça me gêne moins quand c'est celui de l'Argentine ou bien de l'Algérie? Je réponds, je suis français, d'un air hésitant, comme si en douter devenait évident. Peu importe le bord, peu importe le camp, on m'a dit de détester le président. Je viens du pays où il fait toujours beau, mais aussi de celui où il pleut tout le temps. Dis-moi de qui je suis le descendant, des collabos ou bien des résistants? Autant de cons que de complexes, si je pars vous allez pas manquer. Mais à l'autre bout du monde, premier réflexe, je cherche s'il y a des Français. J'aime la France comme une tante avec qui je suis pas toujours d'accord, qui fait trop peu d'efforts, mais pour qui je chialerai toutes les larmes de mon corps à sa mort. T'as vu depuis combien de temps ça dure? Amour ou haine, c'est pas une mince affaire. La police, celle des sales bavures, ou celle en première ligne à l'hyper cachère? Voir ailleurs, prendre du recul, essayer de couper la poire en deux. Quand on part en Inde, on se sent français. Quand on en revient, on se sent chanceux. Souvent, on trouve les réponses quand on les attend pas. Ici, c'est à celui qui mentira le plus sincèrement. On sait qu'après les coupes du monde ou les attentats, comme ces familles qui se réunissent qu'au mariage ou aux enterrements. Ça te fait bizarre, mais je l'aime ce pays. Celui qui me taxe et me couvre d'impôts. Celui qui paye pour moi la pharmacie, qui m'emmène gratuit voir la mer en colo. Son histoire, j'en connais ses horreurs, mais aussi sa puissance. Je suis pas responsable de ses erreurs, mais je dois faire avec ses conséquences.
Ma foi, j'y crois, avec Benoît Petit.
Et Anne-Laure Collin, vous êtes en deuxième année d'études à l'IRCOM, à Angers. Vous venez de parler de votre famille, de votre adoption depuis le Vietnam, pour ceux qui prennent en cours de route notre dialogue. Et vous avez, je pense, apporté ce poème parce qu'il s'agit de l'identité française. Mais vous avez insisté aussi, je pense, sur cette identité catholique à travers la foi et surtout ce que vos parents vous ont transmis. Vous allez peut-être tout à l'heure, là, tout de suite, nous parler du scoutisme. Hein. Mais d'abord, revenons à ce poème de l'identité française, le drapeau, et le grand-père qui est espagnol, la grand-mère qui n'est pas française non plus, mais pourtant, le pays, mon pays, c'est la France, mon drapeau, c'est la France.
Alors là, oui, c'est Big Fleury, donc déjà, c'est toulousain, j'y ai un peu pensé. La chanson s'appelle Sacré Bordel. Alors en fait, c'est plus là mon âme de dirait-on, de Sciences Po qui revient, parce que c'est une musique qui est assez récente, qui est sortie l'année dernière. Et en fait, ils ont réaffirmé des choses juste avant les élections présidentielles sur le sentiment d'être français. C'est surtout là, ça devient là, c'est vraiment d'être fier d'être ce qu'on est, d'être... oui, de pas oublier qu'avant tout, on est français.
Il parle de l'hypercachère, il parle aussi des autres Jeanne d'Arc et Jamel.
Alors ça, c'est plus tard dans la chanson, oui, effectivement.
Et voilà, et alors des grimoires, mais bon, il y a les Gaulois, il y a les chevaliers, mais il y a aussi la cuisine de sa grand-mère avec les tatouages berbères. C'est un beau poème. Vous redites peut-être le lien pour ceux qui ne connaissent pas.
C'est Big Fleury et c'est Sacré Bordel.
Voilà, et donc ça, c'est les mots bien français.
Il y a tout dedans.
C'est toute la question aussi du langage des jeunes, qui n'est pas peut-être celui que on va dire au catéchisme, parce que le catéchisme c'est plutôt un langage sur on va dire le béaba de la foi. Alors je vous dis, mais quelle est la prière qui vous vient à l'esprit le plus souvent? Il y a les prières de la messe, mais c'est plutôt la contemplation de la mer et de la nature pour vous, et puis l'engagement sportif.
Ah oui, l'engagement sportif pour moi c'est la première chose qui c'est une chose qui me tient énormément à cœur, ça fait partie de ma vie. C'est un besoin chez moi, c'est le sport. Beaucoup de choses qui sont des besoins, mais c'est vrai que le sport prend une place assez spéciale.
Avec un livre que vous préparez, mais dont nous ne parlerons pas. Mais par contre, vous pouvez, en revanche, vous pouvez dire les responsabilités de votre papa au niveau des Scouts d'Europe. Ça vous a formé aussi, vous par l'ouverture à la nature, par cette pédagogie. On peut pas parler de discipline, et en même temps, il y a des règles.
Alors, le scoutisme fait partie aussi de ma vie, mais ça depuis toute petite, parce que je suis arrivée, papa était déjà dans ce qu'on pourrait dire dans les autorités des Europes. Donc, on a vraiment baigné dedans petit. C'est un fait. Donc j'ai suivi, on va dire, un cursus tout à fait normal de scoutisme.
C'est le foulard, c'est les copains, vous aviez une mascotte?
Alors moi j'ai pas de mascotte.
Un totem?
Alors non, on n'a plus le droit de se faire totémiser au scout. Mais ce qui se passe, c'est que oui, j'ai fait un cursus normal, j'ai adoré les louvettes, après je suis passée dans les SUF. Là c'était des années un peu plus compliquées, parce que ce soit une question de foi, je savais pas trop si le scoutisme me plaisait. Et j'ai fait le pari de continuer après mes études avec un très très bon groupe d'amis. Et aujourd'hui, moi j'adore ça, créer des jeux. Moi j'ai un esprit de création qui me fascine. C'est-à-dire que ça me fascine l'imagination. Et donc, c'est pas moi ma création qui me fascine, c'est plutôt l'imagination qui me fascine. Et donc j'ai créé des jeux pour des Jeannettes, des guides. C'est quelque chose qui me passionne, quoi.
On dirait, certains sociologues disent, la génération Z, c'est justement ceux qui sont prêts pour l'innovation, la création et trouver de nouveaux codes. Mais ça, on va laisser ça aux spécialistes. Je crois que ce qui est intéressant à noter, c'est que vous êtes engagé avec beaucoup de bonnes amitiés à l'IRCOM, là où il y a des échanges possibles. C'est autre chose que quand il y a des classes de 30. Donc c'est cette relation humaine qui vous intéresse.
Oui, moi complètement. Je suis quelqu'un de très sociable. Pour faire vite, je dirais que la personne ne me fait pas peur. C'est-à-dire que d'aller vers quelqu'un n'est pas quelque chose qui me terrifie, loin de là. Et à l'IRCOM, nous on est 60 dans une promotion, mais en fait, c'est facile d'avoir des rapports avec les gens parce qu'on est là pour vivre. C'est un peu comme les scouts, ce qu'ils vendent l'IRCOM, et c'est pas complètement faux. C'est une aventure. C'est une aventure de 2 ans sur campus et 1 an à l'étranger. Et c'est formidable parce que on peut lier des amitiés avec des personnes différentes et qui sont ouvertes à la discussion, quoi.
Alors, c'est pour ça que vous avez apporté comme référence littéraire Le Petit Prince et le Renard, qui se nouent d'amitié et qui ont besoin de s'apprivoiser, qui ont besoin de ce temps, de la patience. Apprivoise-moi. Alors, il ne sait pas ce que ça veut dire, Le Petit Prince, c'est le renard qui lui dit...
Exactement, il lui explique par plusieurs rencontres... qu'est-ce que, en fait, les bases d'une relation solide, parce que ça vaut pour plein de choses, ce texte-là, ça peut être pour les amitiés, ça peut être juste pour des relations normales.
Il y a un rituel de la rencontre.
Les débuts de l'amour et compagnie, non, c'est un très beau texte, moi, que j'apprécie énormément.
À côté de ça, il y a celui qui compte les étoiles, ils sont sûrs qu'elles lui appartiennent parce qu'il leur a donné un chiffre, un nom. C'est un petit peu bureaucratique. Et puis, il y a le roi qui dit « dis-moi ce qu'il faut que je te commande pour être sûr que tu m'obéisses. » Donc, c'est pas de l'humour seulement. C'est le problème de savoir qu'est-ce qui fait qu'il y a une écoute de l'autre et puis l'acceptation d'une certaine forme d'autorité, ou bien on laisse l'amitié nous conduire. C'est l'intérêt aussi d'avoir des rêves et de poursuivre son étoile.
Exactement. Ah oui, non, Le Petit Prince, c'est une référence littéraire, c'est à lire. C'est à lire parce que ça se lit exactement à tout âge, et ça sans mauvaise plaisanterie. C'est un
livre qui se lit à tout. Il y a aussi ce mystère de l'amour avec sa rose qui est unique au monde par le temps que le petit prince a passé avec sa rose, même si elle a son caractère.
Tout peut être pris comme on veut dans Le Petit Prince, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'on peut... Il n'y a pas forcément des mots à poser dessus, c'est chacun a sa théorie, parce que moi, le renard, j'ai ce que je pense, et quand on en parle avec d'autres personnes, ils ne pensent pas la même chose que moi, que ce n'est pas la même représentation pour eux. Chacun après se l'intériorise et ça forge.
Alors dans 3 jours, vous repartez vers Limoges, vers Angers, vers vos études et votre carrière avec plein de projets. Vous pouvez dire aux auditeurs de Radio Présence ce qui vous a le plus intéressé dans votre stage ici, parce que vous nous avez dit tous les matins quelles étaient les nouvelles pour la région.
Oui,
c'est du travail, ça.
Église d'actualité. Moi, ce qui m'a le plus, c'est découvrir le métier, parce que je l'avais dit au début. Je savais pas ce que je voulais faire. Donc, du coup, parce que pilote d'avion de chasse, c'était beau. Et après, donc, j'ai découvert d'autres métiers pas plus passionnants que ça. Et le journalisme est venu à moi, on va dire, en découvrant les métiers autour de moi. Et c'est la première fois que je côtoie le milieu du journalisme. Donc, ce qui me plaît, c'est le métier en lui-même. Ouais, c'est faire des recherches sur des sujets, c'est assez extraordinaire pour moi.
Vous vouliez remettre peut-être une phrase de la fin du disque, parce qu'il s'agit des différences que l'on a et de ce qu'on a en commun. Je ne sais pas si nous avons pour conclure notre entretien. En tout cas, merci pour votre témoignage. Ma foi, j'y crois. Ça, c'est sûr que vous êtes passionné de sport et vous avez plein de choses à faire dans votre vie. Nous vous souhaitons bon vent.
Merci.
Et bonne route.
Trop de promesses, on fait connaissance, mais combien se connaissent? Faut qu'on progresse, pour être honnête. Moi, la France, j'ai tendance à l'écrire avec un S. On fabrique à l'étranger si c'est moins cher. Et toi, tirer où si venait la guerre? On oublie l'histoire, on refait l'histoire. La paix au pied du mur de nos frontières. Mon padre vit en français, mes rêves en espagnol, est-ce que c'est grave? Et il écrit Vive la France avec une faute d'orthographe. Beaucoup de questions, peu de réponses. J'ai que les paroles d'une chanson. Comment être un artiste engagé quand je sais pas vraiment quoi penser? Tout ce qui est sûr, c'est que je suis français, que mes grands-parents ne l'étaient pas. Mais ce qui compte, c'est plutôt l'arrivée ou la ligne de départ. Et putain, ce que j'aime la France, pour son histoire, pour ses châteaux, pour ses cathédrales, pour sa campagne, pour sa culture, pour ses montagnes. Eh ouais. Mais on se bouffe entre nous comme des cannibales, tous dans le même bateau, ça c'est capital. Plus de nuances que du radical, tous cachés derrière une barricade. Tout le monde sait tout, hein? L'estime de soi est haute. On rejette la faute sur l'autre, mais les autres, c'est nous.